Gaël Gadignan, avec Alexis Le Rossignol, Jérémy Crédville, Daniel Morat, et nos invités sont Léa Seydoux et Arnaud Desplechin.
Hyper à propos ce cri pour Léa Seydoux, Arnaud Desplechin.
On dirait que tu souffles dans un plot de chantier en fin de soirée.
Vous m'avez pas entendu, donc nos invités c'est Léa Seydoux et Arnaud Desplechin. Il y a eu la corne de brume là par-dessus. C'est une corne de brume, on est d'accord.
Daniel,
corne
de brute. Alors si c'est ça l'esprit de Noël,
bienvenue dans la bande originale. Oui. On est le 24 décembre, ce soir nous allons tous réveillonner dans la joie et la bonne humeur. Mais avant ça, on va parler de cinéma en salle le 29 décembre. Tromperie, le nouveau film réalisé par Arnaud Desplechin avec Denis Podalydès et Léa Seydoux, le retour de Jérémy Crédville.
Bonjour.
Ça tombe bien, on va se lancer dans le blind test d'après vous. On va parler de quoi, c'est quoi le thème?
Corne de brume.
Non.
L'amour,
ça pourrait. La tromperie, ça pourrait. Ouais. Et en fait, premier titre.
Les amants.
Daniel.
Clash.
Ouais, le titre.
Ce qui est clair.
London Calling.
Ouais.
C'est
Londres.
C'est Londres.
Parce que le film il se passe
à
Londres.
Oui, c'est vrai.
Absolument. Premier point pour Daniel.
Merci. Ça va, Pierre? Ouais, ça se voit. T'es en séduction en ce moment, je suis très en séduction.
On joue autour de Londres. Deuxième titre.
Douvres.
Autour de Londres.
Ah, je connais ça.
Jérémy, c'est pas du Mathieu Bogart ou.
Ici Londres. Morgane, oui. C'est Chiara Mastroianni.
Bravo!
Dans le film de Christophe Honoré, les bien-aimés.
Bravo! Ici Londres. Dans la BO, les bien-aimés.
Pour moi qui suis noir.
Un point pour Morgane, un point pour Daniel. Londres, en effet, où cet auteur américain, Philippe, s'est exilé, où il fait la rencontre du personnage incarné par Léa Seydoux. Troisième titre.
C'est Mylène Farmer. Jérémy, mais c'est pas Mylène Farmer.
Mais si.
Mais c'est vrai. Ça ressemble tellement.
Et pourquoi? D'où ça vient? Soit t'as une vue incroyable.
Non, il y a cet instru et ce petit truc. Ça me fait penser à Mylène Farmer. Ce piano.
Est-ce que tu es en train de me mentir?
Non, je
pense
que
non.
Ah non, non, c'est trois notes de piano, c'est Mylène Farmer.
Eh ben bravo.
Il s'est réveillé pour mentir là.
Dans les rues de Londres, Mylène Farmer.
Pas le titre, mais...
C'est un point assez exceptionnel, il faut quand même le dire. Jérémy, Daniel, Morgane, un point partout. Bravo. Alexis, c'est pour toi le prochain.
Ah oui.
T'es prêt?
Oui.
Regarde comme elle jubile. Elle veut pas le lancer.
Non,
tout
mais
suite.
C'est pas ça, c'est qu'il a pas l'air convaincu. Allez.
Ah, c'est pour toi. Hein.
On l'a tous, mais en classe.
Bah ouais. Alexis.
Attends.
Ouais, on fait que ça.
Allez. Vous faites pas ça, quand même.
Morgane.
Je l'ai pas, moi.
Oui, Morgane.
London Grammar.
Bravo.
C'était quoi?
London Grammar.
Ah, d'accord.
Ah oui. Ah oui. La grammaire londonienne.
Cette voix.
On va revenir à des groupes connus.
London Grammar. Bah, c'est connu quand même, London Grammar.
Pas de moi.
Pas de toi, ouais.
C'est,
c'est Morgane qui est en tête pour ce blind test autour de Londres. Cinquième titre.
Oula.
Ah, c'est. Comment ça s'appelle?
Il y a London dedans. C'est pas...
Take
c'est...
me back to London. I do deals but I never get
twanged. Alors,
qui sont ces gens? Est-ce que c'est un nom de groupe avec des lettres dedans? C'est pas un...
Ça vous dit rien?
NTC ou je sais pas quoi? Alan Melhao?
Lui je sais pas, mais j'aurais pu reconnaître la voix du début.
Non on l'a pas hein.
Non on l'a pas hein.
Je vous donne un indice, c'est ouais. S'il a sorti un gros tube pour Noël. Le chanteur.
Maria Carré.
Non.
Ah si.
Un gros tube pour nous.
Il a sorti un duo qui cartonne pour Noël, qui va prendre peut-être la suite de Maria Carré. Absolument.
Ed Sheeran. Ah ouais.
Take Me Back to London avec Stormzy. Stormzy, vous la connaissez pas.
J'ai pas reconnu Stormzy.
Je ne donne le point à personne.
Ah bah
sixième titre avant le Super Banco.
C'était un peu fort.
Eddie Mitchell.
Non.
Le papa dit.
Et la dernière.
Daniel,
c'est pour toi.
C'est pas Patrick Bruel, ça?
Non. Il y avait des éphémères. Jeune.
Ferret.
Un chanteur qu'on a accueilli autour de cette table, qu'on aime beaucoup.
Souchon.
Vincent Delerme. Qui a dit Souchon?
C'est moi. Ah. Près de Ville. C'est Alain Souchon.
Oh, mais c'est jeune.
C'est Alain Souchon.
Ah ouais. Près de Londres, sur ta mise. Ça a changé quand même. Il avait la voix plus grave avant. Ouais. Il a démué. La maison volait vers les
Alain Souchon, Londres sur ta mise, on continue à jouer avec la ville de
c'est
Londres.
C'est le Banco, non?
C'est le super Banco. Alors là, faut être bien concentré. Okay. Mais je pense que Morgane, tu as une petite avance sur cette histoire.
Jérémy, Armanet, oui. Juliette Armanet.
Non.
Je vous entendais parler d'Armanet tout à l'heure.
La voix va être reconnaissable.
Bah ouais,
la voix va être reconnaissable, mais un elle n'est pas évidente à reconnaître.
Alexis Anne Pearson.
Non.
Now as Morgan, Benjamin Clementine.
Ok.
Bravo.
Sorry. Ah oui.
Il y en a qu'un.
C'est vrai.
Et c'est une victoire de Morgan Cadignan avec Benjamin Clementine. Bravo. Bravo. Et on accueille nos invités, Léa Seydoux et Arnaud Desplechin.
France Inter, la bande originale. Leïla Kaddou.
Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus dans la bande originale. On a joué avec Londres pour rendre hommage au lieu où se situe l'intrigue de Tromperie. Comment ça va ce matin?
Très bien.
Oui, ça va Léa?
Très bien, très bien.
On est ravis de vous accueillir. Vous partagez l'affiche avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Et Arnaud, vous nous proposez un film, cette fois-ci Tromperie, qui vient de très très loin, une ancienne envie. Juste pour placer le cadre, Philippe, un auteur américain exilé volontairement à Londres, est marié, il a une maîtresse avec laquelle il entretient une relation assez étonnante, une relation très drôle, une relation à la fois aussi passionnée, mais c'est très souriant, très les questionnaires qu'ils inventent tous les deux, il y a une complicité assez folle entre ces deux-là, c'est un peu l'adultère dont on rêve en fait finalement au départ. Enfin, je dis pas ça, je demande pas ça sous le sapin.
C'est joyeux.
Il y a un truc très joyeux.
Toi, t'as
très
joyeux d'adultère.
Non, mais en tout cas, je trouve que c'est très joyeux et voilà, et c'est difficile de raconter le roman de Philippe Roth parce que Tromperie c'est compliqué. Mais comment on s'y prend,
quoi. Ouais. Ben plus qu'un roman, en fait, c'est comme un carnet. Le livre se présente comme un carnet de notes avec simplement des dialogues, et c'est le film, le travail d'adaptation qu'on a fait, le jeu des acteurs qui transforme ça en histoire. Il n'y a quasiment pas d'histoire dans le livre. Alors Roth a écrit les romans merveilleux qu'on sait, mais celui-là, c'est plus comme un essai. Et ce qu'on a essayé, c'est de transformer ça en roman, quoi, de retrouver la trace du roman dans l'essai que Roth nous proposait. Et oui, c'est quand dans les aventures extra-conjugales, chaque moment est irremplaçable et magique et singulier, quoi, puisque c'est tellement évanescent, c'est tellement fragile, c'est tellement frêle que tout arrive et devient miraculeux.
Et c'est une figure de l'auteur incarnée par Denis Podalydès, qui est lui-même auteur d'ailleurs, donc je trouve qu'il y a un parallèle qui est toujours intéressant. C'est un homme qui aime lire, qui aime les lettres, qui aime écrire aussi. Et c'est un personnage qui est assez envoûtant et en même temps inquiétant, comme s'il était une forme de vampire qui venait se nourrir en fait des récits des femmes qu'il a rencontrées, parce que votre personnage, Léa Seydoux, c'est pas la première femme qu'il rencontre. L'infidélité, en tout cas, a l'air d'être une pratique courante chez ce personnage.
Ah oui, il la revendique, bien sûr.
Et il vient noter des phrases après les entretiens, ou même pendant, en fait.
Oui, il a toujours ses notes avec lui et il a cette obsession. À un moment, il dit, je suis un audiophile, et Léa se moque de lui et je trouve ça très bien. Et moi, ce qui me frappe derrière, c'est les mots que l'amante anglaise a vers la fin. S'il lui dit, alors tu serais Nausicaa, tu serais, etc. Elle dit pas du tout, je serais Ulysse. C'est-à-dire que les femmes écoutées par cet homme, et singulièrement l'amante anglaise, elle est assez doux, les femmes, elles se conquièrent elles-mêmes. C'est pas des objets. Elles trouvent, parce qu'il a cette patience, cette écoute, qui est presque comme une écoute de psychanalyste, tout d'un coup, leur voix, elle retentit d'une manière très très puissante, quoi. Et chacune des femmes, je trouve, est montrée avec puissance.
C'est elle l'héroïne, en fait, Léa.
Bien sûr.
Finalement, c'est elle qui a la part belle, celle qui tresse un peu le récit, si on reprend un peu une image de l'épopée, justement, si on parle de Nausicaa ou d'Ulysse, c'est elle qui tisse, en fait, le texte et qui se raconte presque face à une sorte de psychanalyste, en fait. C'est un accoucheur, lui aussi.
Oui.
Comment vous l'avez envisagé ce rôle?
Je sais pas. Non, j'ai pas. Vous savez, moi, j'ai eu une lecture plus simple de cette. Pour moi, c'est une histoire d'amour. Alors, c'est une histoire adultérine. Mais c'était non, pour moi c'était une histoire d'amour et c'est une histoire de tendresse et c'est sur la fragilité du présent de la vie j'ai trouvé ça très inspirant en tout cas à jouer et surtout je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse. C'est un film dans lequel on se laisse porter par les sentiments.
Ce qu'on sait en tout cas, c'est que votre personnage est une femme qui n'est pas très heureuse son couple. Ça, c'est au moins c'est une situation. D'ailleurs, elle parle curieusement de son mari en disant que son mari a une petite amie. Donc, il n'a pas une maîtresse, il a une petite amie comme si. Donc, ça faisait partie de l'histoire en fait. C'est entendu, c'est établi.
Oui, mais elle l'accepte en même temps. Elle vit aussi les choses avec une certaine légèreté. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a cette gravité, cette légèreté qui cohabite. Et c'est ça que j'ai trouvé très beau dans le film. Et c'est vrai que Arnaud, c'est quelqu'un avec qui j'adore travailler. Et il a toujours le don de choisir des sujets qui me bouleversent. Et donc voilà, c'était un rêve de faire ce film.
Pourquoi c'est
très
un rêve.
Inspirant, mais parce que c'est difficile à expliquer, c'est difficile d'exprimer ça avec des mots.
Chanter.
Mais mimer. C'est vraiment magnifique. Merci Arnaud.
Ben voilà.
Je savais qu'il y avait une solution.
Pour ce voyage.
C'est ça, chanter.
C'est le réveillon. C'est le réveillon. C'est le miracle de Noël.
C'est la belle femme quand elle chante.
On a perdu Léa.
Non, mais voilà, c'est.
Allez, toutes les
c'est un voyage.
C'est un voyage. C'est un voyage. Comment justement venir à son secours, Arnaud, avec des mots pour exprimer. Parce que moi, j'ai vu un réalisateur qui était fou amoureux aussi de sa comédienne. Parce que j'ai vu des gros plans merveilleux. J'ai vu aussi, j'imagine, une complicité avec le chef opérateur qui font que on est au plus près. Parce qu'en effet, c'est une histoire d'amour. Quoi qu'on en pense, en réalité, que ce soit un adultère ou pas, ce sont deux êtres qui se rencontrent,
ça,
peu importe.
Sûr, ouais.
Mais il y a tout d'un coup, en effet, un personnage qui est dans une forme de fragilité, une seconde, et une seconde après qui est la femme forte. Et en tout cas, on la voit juste avec la variation de lumière évoluer dans ce personnage. Et ça, c'est hyper beau.
Je pouvais pas imaginer de... Enfin, voilà, j'ai proposé à Léa... immédiatement, je trouve que tout disparaît pour qu'elle apparaisse, quoi. C'est-à-dire, Denis, il avait envie de disparaître pour la laisser apparaître. Et moi, mon travail, c'est juste de filmer un personnage féminin, et voilà, il apparaît en lumière, et toute la lumière de Yorick Lossau était au diapason de Denis, qui est en même temps très bravage, comme ça, qui a des scènes très spectaculaires, et qui en même temps disparaît derrière la femme aimée. Et la femme aimée, ben, c'est Léa Seydoux, voilà. Ce qui est très difficile, moi aussi, je trouverais pas les mots, et je sais pas chanter comme Léa. Non, mais c'est que j'entends la voix, vous voyez, bien sûr, c'est un rôle, un rôle. Mais je trouve que la voix de l'amante anglaise, mais la voix de Léa Seydoux résonne comme très rarement, vous voyez, j'ai l'impression d'arriver à la toucher du doigt, alors que comme je suis un peu pudique dans la vie, j'oserais pas. Voilà, c'est fait.
Et vous voyez, j'ai l'impression de voir. Il se passe des choses.
Oui, d'ailleurs, à la fin, votre personnage dit que plusieurs amis ont reconnu votre voix dans le livre.
Dans le livre, ouais.
Et moi, je me suis demandé si maintenant, c'était pas la voix de Léa qui allait devenir pour vous la voix de cette héroïne et de peut-être de nombreux autres de cet auteur américain.
Ah, bien sûr, oui. C'est très bouleversant. J'ai pas des mots, mais vous voyez, c'est bouleversant quand il y a un tel don sur le tournage. Veillez, et l'équipe le sait, tout le monde le sait, moi je le sais, on rentre, on est humble devant ça, quoi. Et c'était Mamzelle.
Voilà. C'est Mamzelle. Tromperie est au cinéma à partir du 29 décembre.
Grosse pression.
On va parler dans un instant aussi de la musique dans ce film. et des collaborations que vous continuez de mener au long cours aussi avec Grégoire Hetzel. Vous l'avez compris, on est ravis de vous accueillir, on est ravis d'entendre Léa chanter à ce micro.
Quelle révélation.
Mais tout le monde autour de cette table n'est pas complètement ravi de vous voir là.
Et ouais,
et elle a les mots, elle, c'est Morgane Cadignan, elle ne vous aime pas.
Et Morgane.
Ah, tromperie un 24 décembre. Quoi de mieux qu'un peu de trahison et d'adultère pour bien démarrer le réveillon.
Oh, oui.
Un amant pour Noël, il propose jamais ça dans les téléfilms de M6 alors que ça serait tellement plus réaliste. Moi, je fais chanter ça ce soir devant ma famille, genre « All I want for Christmas is un autre corps que celui de mon époux, ooh, baby ». En même temps, tromperie, c'est un sujet qui me parle. Oui, bah, je suis pas allée assez doux, pardon. Pardon, Daniel, de pas chanter aussi bien. En même temps, soit allée assez doux et Arnaud Desplechin, il y a un standard à tenir. Puis je vous avoue qu'après les Tuches 4, il y a 3 semaines, moi, ça me fait du bien. Moi, j'ai signé chez France Inter, hein, donc c'est doux, Desplechin, il était un peu temps. J'étais à ça d'aller chercher l'élégance sur Sud Radio, donc c'était moins une. Après, bien sûr, faut pas mettre les gens dans des cases, mais Arnaud Desplechin, c'est quand même un nom qui sent bon le tapis rouge et un peu moins les bouts de frites dans les dents de Jean-Paul Rouve. Mm-hmm. Arnaud, vous avez réalisé un conte de Noël sur une famille qui se réunit à Roubaix, avec en fond la mémoire du fils aîné mort parce que pas de don de moelle osseuse. On vous souhaite un joyeux... Non, pas maintenant, Francis. On repasse dans une heure. Après, vous avez réalisé Roubaix, une lumière. On va partir en vacances ensemble, Arnaud, s'il vous plaît, parce que je vous jure qu'il y a d'autres villes. La brique rouge, c'est bien, mais le soleil, vous allez voir. Ça brûle au début, mais vraiment, on s'habitue. Là, dans Roubaix, une lumière, pareil, soir de Noël. Ah bah voilà. La nuit de Noël, donc, et deux flics vont devoir enquêter sur le meurtre d'une vieille dame. On vous souhaite... Non, Francis, toujours pas. Vraiment, il veut pas. Là. Bon, écoutez, moi, je veux bien mettre du mien, les amis, concernant l'esprit de Noël. Vraiment, j'essaye, ramener des petits chocolats au bureau, acheter des sous-vêtements de Mère Noël qu'absolument personne autour de cette table ne m'a demandé. Ah non, c'est pas Daniel. Transformer mon scooter en traîneau. Bon, ça, j'ai pas fait exprès, j'ai juste foncé dans le sapin de la place de Clichy. Histoire vraie et flemme de démêler.
C'est vrai,
mais faut m'aider, les amis.
Ouais, ça bien, hein.
Léa, s'il vous plaît, dites-lui à Arnaud que mourir peut attendre, qu'il n'y a pas que minuit dans le Nord, il y a aussi minuit à Paris qui est joli. Dites-lui que le spectre de la joie peut être large et que c'est quand même pas juste la fin du monde de chercher un peu de consolation quand on a une belle personne. Dites-lui aussi que The French Dispatch les a dû à la reine, The Lobster. Ouais, bon, ceux-là, je savais pas où les foutre. Vous choisissez pas vos films en fonction de mes jeux de mots. Hein, donc, si personne s'y met, moi, on va pas s'en sortir. Après, c'est sûr que, Arnaud, vos films, ils sont souvent justes, tout le temps vrais. Parfois, le vrai, c'est pas léger. Sur toutes vos affiches, il y a des petits lauriers de festival de films et pourtant, vous ne vous reposez jamais dessus, jamais. De réalisation en réalisation, c'est toujours brut, exigeant. Comme Daniel quand il fait ma commande de Noël sur Etam. Léa, je sais pas trop, au fond, ce que vous pouvez pas jouer. La mauvaise actrice, peut-être. Ouais. Par contre, calmez-vous avec les films américains. Arnaud, écrivez le prochain James Bond parce qu'elle va se barrer pour de bon, là. Moi, je vous préviens, James Bond, il peut pas James Bonder à Roubaix. C'est pas possible. Donc, vous me chopez de la crème solaire 70, une caméra et on se tient.
Bravo. Bravo.
C'est un verbe, James Bond.
C'est une union, tous les deux aussi, qui n'est pas nouvelle. On vous avait en effet retrouvé dans Roubaix une lumière. J'ai l'impression qu'il y a comme une évidence que vous vous êtes trouvés tous les deux.
Je ne parlais que pour moi, mais moi, ouais.
Ouais.
Moi, ouais, à fond.
Il n'y a pas un prochain film sans Léa, en fait. Ça
j'aimerais
compliqué.
Bien, j'y pensais ce matin, parce que on a fait deux adaptations.
Ouais.
C'est trop, faudrait que j'écrive un film original, parce que ce serait pas... J'aimerais que ce soit mes mots à moi, et pas les mots de Philippe.
Ouais.
J'aimerais bien essayer ça, quand même.
Et Philippe, c'est une vieille histoire, en fait. Vous le racontez dans des interviews, vous avez une passion pour cet auteur américain.
Ouais.
Et vous aviez lu Tromperie en français il y a déjà quelques années, puis en anglais.
En anglais, je vous prie.
Ah oui, parce que j'avais cru que vous aviez commencé à le lire en français. Est-ce qu'il ne serait pas un scandale non plus?
D'accord, non, c'est pas bon, ça, voilà. J'étais impatient avec les dates. Vous voyez, le temps de traduction était devenu un peu trop long, donc je lisais d'abord. Je lis très mal l'anglais, mais je lisais d'abord en anglais. Et puis après ça, je corrigeais avec la version française.
Voilà,
parce que
d'accord. L'aller-retour entre les deux. L'aller-retour entre les deux. Et vous avez déjà eu envie de l'adapter à plusieurs reprises.
Mais comme c'était un livre que je traînais avec moi, que j'offrais souvent et tout ça, c'est plutôt des bonnes âmes qui me disaient, bah, tiens, tu devrais le faire, puisque t'en parles tout le temps, tu devrais le faire. Et j'essayais, je trouvais que ça faisait pas un film. Jusqu'au point où un jour, j'avais tourné un petit bout qui sont des essais préparatoires que je fais pour d'autres films. C'était sur Roi et Reine que j'avais tourné avec Emmanuel De Vos. Et il se trouve que c'est devenu un bonus DVD. Et ce bonus DVD est arrivé chez Philippe Roth. Et donc, un jour, je crois que c'était le soir de mon anniversaire,
Ça sonne chez moi, au téléphone je suis pathétique, Léa le sait, on communique que par texto, je ne sais pas téléphoner, je ne sais pas faire ça.
Comment ça vous ne savez pas téléphoner?
Je ne sais pas téléphoner,
qu'est-ce
ça me fait peur.
Qu'est-ce que vous ne savez pas faire dans le téléphone?
Ça me fait peur. Et donc, et ça t'écroche, l'objet et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui me dit « Hi, Philip Roth », et tout ça. Et alors là, je suis terrifié, quand je parle au téléphone, j'ai une voix de fille, donc je dis « Yes, sir », et tout ça, et lui il disait « Don't sir me », et je disais « Yes, but you know, I'm not that sure that it would make a good film », etc. Et il me disait « Mais faites-le comme ça ». Et je comprenais pas ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire, j'avais tourné ce bout d'essai avec Emmanuel De Vos en français. Je l'avais tourné très légèrement. Et toute l'émotion était là. Et en fait, Roth, il m'a expliqué au téléphone, il me disait, il faut le faire comme ça. Et je lui disais, oui, mais c'est un film américain, faut peut-être le faire en Amérique, ça se passe en Angleterre. C'est un film d'époque, puisque ça se passe avant la chute du mur de Berlin, etc. Il me disait, mais non, non, vous comprenez pas, faites-le comme ça. Et moi, follement, je me disais, il connaît pas le cinéma, c'est un écrivain de génie, mais c'est pas un réalisateur. Et en fait, il avait raison. Et après, quand l'idée m'est arrivée, ça m'est arrivé par les acteurs, je me suis dit, mais c'est simple, il faut le proposer à Léa, il faut le tourner là, comme ça, tout de suite, vous voyez, en français, et voyez, comme un conte amoureux que Léa décrivait.
C'est aussi simple que ça, mais ça a mis quand même du temps. Je crois que c'est pendant le confinement que vous vous êtes dit, je peux me lancer, que je peux...
Oui, parce que c'est l'histoire de gens qui sont tous un peu déplacés, enfermés. Il y a un personnage comme ça qui est une Tchèque qui est réfugiée et qui dit au début du film qui dit si je suis pas à ma place, je suis pas du tout à ma place. Et le personnage de Léa pourrait dire la même chose. Vous voyez, dans son couple, elle est pas à sa place. Lui n'est pas à sa place, l'écrivain, puisqu'il aime pas l'Angleterre, spécialement New York lui manque. Il a Emmanuel De Vos, son ami qui se meurt d'un cancer, qui est à l'hôpital. Mais c'est que des gens, des histoires tragiques.
Comme vous en riez, je me souviens, j'ai bien pris une note de vos remarques.
Et il y a un endroit où les gens sont à leur place, il y en a un, c'est Denis, quand il est dans son bureau d'écrivain.
Oui.
Et là, tout d'un coup, il est libre.
Et qu'il écoute, et qu'il retranscrit éventuellement les histoires des uns et des autres. C'est comme une sorte d'écrivain public, en fait. Il a une... Il est au service. Il est au service, mais il se sert quand même beaucoup aussi. Voilà, c'est ça. C'est l'ambiguïté de ce personnage. Parce
c'est son ambiguïté.
Il est à la fois charmant, il devient magnétique au fur et à mesure qu'on voit l'histoire d'amour se dessiner. Mais il est aussi un auteur et il a besoin de se nourrir en fait. Y a-t-il un parallèle avec la figure du réalisateur qui se nourrit lui aussi sans doute
Certains, j'avais un ami qui disait ça c'est sûr c'est pas facile d'être les parents de Kafka. Vous voyez à la fin vous recevez une lettre au père et ça fait pas plaisir. Mais bon voilà c'est comme ça quoi. Quand vous écrivez vous... bien sûr il y a une fonction de vampire mais quand vous jouez aussi vous servez de. Mais vous voyez ce que j'aime avec Roth c'est enfin, les premières raisons pour lesquelles j'ai été fasciné par lui, c'est qu'avant de se servir des autres, il se sert de lui. Il se moque de lui-même, vous voyez. Et c'est pour ça, vous parliez de Roubaix. Effectivement, j'adore le dernier James Bond, mais je l'adore. Et franchement, je suis content qu'il ne s'est pas tourné à Roubaix. Le film aurait été moins bien. Et pour autant, quand je lisais les premiers livres, vous voyez, tous les livres de Roth se passent à Newark, qui est une ville très humble, voilà, ou une banlieue de New York et tout ça. Et il se base sur lui, sur son expérience. En disant, là, c'est des Juifs de Newark, et voilà, c'est pas plus que ça. Et du coup, quand j'ai fait mon premier film, La vie des morts, je me suis dit, il faut que j'arrête de faire semblant d'être parisien. Tous mes films, ils se passeront à Roubaix. Voilà. J'ai rien d'autre à raconter. Vous voyez, et je me servirai de moi pour faire de la comédie, plus que des histoires qui seraient pas basées sur mon expérience personnelle.
Et on accède à quoi? Une forme de vérité plus précise, plus pointue? Parce qu'on est.
Non, on accède à l'humour.
Ah.
Vous voyez, à se moquer de soi. Vous voyez, c'est à ça qu'on accède.
Et ça, c'est important. J'ai évoqué la bande-son de ce film et Grégoire Hetzel. Je crois que c'est la sixième collaboration
avec lui.
Ouais. Comment vous avez envisagé le travail cette fois-ci? Je crois que ça a été un petit peu différent.
Ouais, là aussi c'est vraiment un film singulier, c'est différent parce que d'habitude c'est un cauchemar pour lui parce que vous voyez je mets ce qu'on appelle des temps, les musiques temporaires.
Ouais.
J'utilise des musiciens que j'aime bien, Delru, Herman, Takemitsu, des choses comme ça. Donc je dois faire du faux Herman, du faux Delru, du faux Takemitsu. Et là on avait mis que des musiques de Hetzel
en
musique temporaire en référence. Et je dis maintenant je veux plus que tu fasses du faux Herman, je voudrais que tu fasses du vrai Hetzel. Et donc il était content, il était soulagé. Je trouve le score très bouleversant.
Quelles indications Léa Arnaud vous a-t-il donné justement dans ces scènes? Est-ce que la musique est présente sur le plateau justement pour vous donner une idée de ce qu'il veut obtenir?
Non, 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 la musique n'est pas présente. Non, il le dit avec des mots, mais pas tellement. Enfin, c'est toujours, vous savez, c'est toujours assez mystérieux, la relation entre un metteur en scène et son actrice. Et donc, j'ai toujours eu le sentiment, et là je parle pour moi parce que c'est quelque chose qui est difficile à analyser, mais il y a quelque chose chez Arnaud où c'est vrai, je suis galvanisée. Quand je travaille avec lui, il m'inspire énormément. Et son regard sur le monde m'inspire, me donne envie de lui donner d'abord le meilleur de moi-même. Mmh. Et je suis, comme je l'avais dit juste avant, les sujets qu'il choisit me bouleversent. Alors ce sont évidemment pour des raisons très... très personnel, mais c'est aussi son langage à lui. Enfin, il a son langage cinématographique, son langage poétique. Enfin, je veux dire, c'est un artiste. Et lui et moi ensemble, ça match. Je peux pas dire autrement.
Qu'est-ce qui vous touche tant dans le thème de ce film, dans Tromperie ?
Alors, le thème me touche. Enfin, je veux dire, déjà cette histoire d'adultère que je trouve très enfin, je trouve ça très beau, justement, comme disait Arnaud, ce moment suspendu, c'est que finalement les choses qui sont les plus importantes dans la vie sont souvent éphémères. Enfin, je veux dire, c'est finalement aussi cette banalité de l'amour. Mm-hmm. Et donc attendez, excusez-moi, ce qui me bouleverse, c'est, je sais pas, c'est une attitude face au monde, c'est Arnaud, c'est sa pensée, c'est son intelligence, c'est sa subtilité, et d'ailleurs qui est encore une fois difficile à exprimer avec des mots, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que le cinéma existe. Et j'ai l'impression que c'est des choses aussi que j'arrive à exprimer quand je suis sur un plateau. Et comme d'ailleurs le disait Arnaud sur quand il parle de Philippe Roth, et que Philippe Roth est à sa place quand il se trouve à son bureau, moi c'est un peu le sentiment que j'ai aussi. J'ai toujours eu le sentiment de pas être à ma place dans le monde, et voilà, du chaos de ce que c'est que d'exister, que d'être, que voilà. Et quand je joue, je me sens tout d'un coup avoir une utilité.
Ouais, appartenir à quelque chose, être au bon endroit, quoi.
Exactement.
À votre place.
Voilà. Et Arnaud m'aide, en fait, c'est comme s'il m'offrait, enfin, je veux dire, il me fait exister.
Et vous fait exister très fort, puisque vous ouvrez ce film-là dans une loge de théâtre, telle une comédienne, avec ce miroir qui nous fait entrevoir que tout d'un coup, cette histoire est-elle vraie ? Est-ce que c'est une mascarade ? Est-ce que c'est une incarnation, tout d'un coup, qui va jaillir dans notre vie pour être transportée, en effet, directement dans ce bureau un peu stylisé, qui n'est pas vraiment le réel bureau, hein, qui est le bureau scène, finalement. Et le spectacle rejoint la vie rejoint le spectacle. Où sommes-nous au milieu de tout ça ? On ne sait pas à quelle place on appartient, mais on est quand même bien dans ce film. Voilà, c'est le trouble que ça peut engendrer. Je ne cherche même pas à expliquer l'ouverture de ce film. Je trouve qu'elle m'a tout d'un coup emmenée quelque part, ailleurs. Et je fais confiance, en effet, à l'intelligence du réalisateur pour ne pas essayer de trouver un langage à tout, en fait. C'est Tromperie, c'est en salle à partir du 29 décembre, mercredi, réalisé par Arnaud Desplechin avec...
C'est doux, j'en parle le mieux.
Denis Podalydès.
Léa, c'est doux.
Pas possible. Il faut pas l'encourager. Avec Anouk Grimbert, j'espère qu'on va reparler de cette comédienne exceptionnelle. Emmanuel DeVos, Rebecca Marder aussi, Madalina Constantin, Miglène Mirtchev, Saadia Bentayeb et André Oumanski. Et tout de suite dans la bande originale, c'est Alexis le Rossignol, s'il vous plaît.
Bonjour à tous.
Oh oui, à toi.
Alors, dimanche soir, j'ai été invité à une comédie musicale.
Ah,
super. C'est la première fois que j'allais en voir une. Et c'est vrai que je ne m'étais jamais senti concerné par ce genre de spectacle. Il y a des trucs, parfois, tu sens que ce n'est pas ton truc, quoi. Question de feeling. Et ça s'est complètement confirmé. À la fin, il y a eu une ovation dans la salle. Les gens étaient debout. Tout le monde trouvait ça incroyable. Moi, j'étais là. Effectivement, techniquement, c'est bien fait. Les décors sont dingues. Les acteurs chantent bien. Mais c'est chiant. Qui passe sa vie à chanter comme ça dans la vraie vie ? À chanter tout le temps, partout, super fort, dans la rue, dans les magasins. Mais va chanter comme ça chez Carrefour pendant que tu choisis tes légumes, quoi. Peut-être Jérémy Crédville, là, les gars.
Régulièrement.
Ou vous, Léa Seydoux. Alors, s'en est suivi un grand débat avec mon ami sur l'attitude à avoir quand on va voir un spectacle, et surtout sur notre capacité ou notre incapacité à nous ouvrir à des mondes féeriques et tout ça. Et ça m'a rendu triste, quoi. Je me suis dit, Alex, où est l'enfant qui était en toi? T'es devenu trop cartésien. Tu sais plus te laisser embarquer par les histoires. Deux jours avant Noël, le coup de vieux, quoi. C'est comme Miss France. L'autre jour, j'étais chez des amis, ils regardaient ça. C'était leur programme de la soirée. Ben, j'ai failli les perdre, ces amis. Parce que moi, je peux pas regarder Miss France. Déjà, parce qu'à la présentation, Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, j'ai peur. J'ai l'impression qu'ils sont en cire. Le reste de l'année, c'est des bougies, je crois. Et les potes, ils regardent ça en commentant comme de la pétanque, tu vois. Ils sont, oh, celle-là, elle est belle. Oh, jolie boule. Ouais, voilà, c'est un peu ce niveau-là. Donc, il y a vraiment deux France qui s'opposent chaque année au sujet de Miss France. La première, c'est ceux qui regardent. Ils sont 8 millions. Voilà, ils aiment ça. Ou ils trouvent ça divertissant. Voilà, ils sont là tous les ans, fidèles au poste. Et l'autre, c'est la France des opposants qui trouvent cette émission rétrograde, qui disent que Miss France, c'est l'objetisation de la femme et tout ça. Et moi, spontanément, je suis d'accord avec ces gens-là. C'est vrai, faire défiler des nanas en maillot de bain pour juger leur physique, poser deux, trois questions pour être sûr qu'elles sont pas teubées, effectivement, c'est pas très moderne. Et je pensais que c'était pour ça que je regardais pas. Sauf qu'en fait, pas du tout, hein. Et je m'en suis souvenu chez mes potes. Je regarde pas parce que je trouve ça nul, en fait. Mais nul dans tout, quoi. Les musiques, les escaliers, l'ambiance, les présentateurs. Ils pourraient autoriser le concours à des femmes mariées, à des divorcées, à des veuves, à des femmes d'un mètre trente, à des trans. Ce serait bien pour faire évoluer le concours, mais je trouverais ça nul quand même. En fait, les gens qui dénoncent le sexisme de cette émission, ils s'attaquent pas au vrai problème, hein. Le vrai problème, c'est l'éclairage, c'est les paillettes, c'est les plumes, c'est la couronne, c'est tout, quoi. Après, bon, c'est peut-être moi qui passe à côté du truc, hein, comme dans la comédie musicale dimanche soir. On peut pas être sensible à tout. Il y a des gens, leur passion dans la vie, c'est les anagrammes. Prendre un nom et un prénom et se creuser la tête pendant des heures pour trouver des mots ou des expressions qui veulent rien dire, mais te les partager. Bon, ben moi, les anagrammes, ça me touche pas. Les gens m'en envoient parfois. L'autre jour, quelqu'un m'a envoyé Emmanuel Macron, ça donne mon Manuel cramé. Mais qu'est-ce que je fais de ça? J'ai répondu ah ah par politesse, mais j'étais mal, quoi. Et malgré tout, je me dis, si ça rend les gens heureux, eh ben tant mieux, quoi. Donc cette chronique, finalement, c'est une chronique pour nous inviter au respect mutuel en cette veille de Noël, car nous avons tous des goûts différents. Et si on veut... Si on aime regarder Miss France, eh ben ça se respecte. Et si on aime les comédies musicales, même si objectivement c'est pas crédible, eh ben ça se respecte. Et si on aime les anagrammes, eh ben ça se respecte. Allez, tous avec moi. Si on aime prendre les échafaudages en photo, eh ben ça se respecte. Si on aime les origami, eh ben ça se respecte. Et si on aime le chou en salade, eh ben ça se respecte aussi.
Ah ouais ?
Évidemment, parce que c'est bon le chou en salade.
Ah non, c'est pas vrai.
Allez, joyeux Noël à tous, messieurs dames.
Ouais. Dans le top 3 des chutes, celle-ci était exceptionnelle aussi, Alexis le Rossignol. On continue à parler avec nos invités, Léa Seydoux et Arnaud Desplechin, du film Tromperie en salle le 29 décembre. Et on va se promener dans les années de votre vie à tous les deux. On commence avec l'année 2005. Ça, c'est la musique que vous écoutiez, Léa, en 2005. 8 titres de Michael Jackson. Qu'est-ce que ça vous évoque? Pourquoi avoir choisi cette musique?
Mais 2005, non mais je l'écoute tout le temps.
Bah oui, c'est pour ça.
Ouais. Encore 2005 aussi, donc c'est bon.
Je sais pas 2005, c'est ce qui s'est passé en 2005. 2005. Ah oui, non, 2005, oui, c'est quand j'ai commencé à jouer.
Ouais, vous commencez à... Vous entrez à l'école de théâtre, c'est ça?
Oui.
Aux enfants, terrible.
Oui. C'est non, mais c'est vrai que Michael Jackson, je suis une grande fan et il m'a beaucoup inspirée dans ma vie. Il m'inspire
fan
encore.
De son œuvre aussi.
On va parler de vos débuts. Vos débuts dans le métier d'actrice. Vous dites que c'est sur proposition d'un copain que finalement vous en arrivez à aller à l'école et à commencer à vous lancer dans ce métier-là, en fait.
Pas vraiment proposition d'un copain, mais j'étais donc en première terminale.
Oui.
J'étais une très mauvaise élève et j'étais très, très chaotique. Et j'ai un copain qui était dans mon école et qui me dit « Oh ouais, j'ai rencontré un mec qui me prend dans son agence pour faire des publicités.
Mm-hmm. »
Et je me suis dit que c'était une bonne façon de... Enfin, j'ai été intéressée. Je lui ai dit, pas mal. Je veux bien rencontrer cette personne. Ça me dirait aussi de faire des publicités. ce que je voulais, c'était, bah, je sais pas,
gagner votre vie,
de l'argent, quoi.
Ah, oui.
Et je suis rentrée dans cette agence et le mec de l'agence m'a dit que ce serait bien que je fasse des cours de théâtre, que c'était mieux pour voilà, pour la publicité. Et puis tout d'un coup, voilà, je me suis inscrite dans une école de théâtre, donc j'ai regardé dans les pages jaunes parce que je connaissais pas les écoles de théâtre. Et je suis tombée sur une école qui s'appelle Les Enfants Terribles, qui était une petite école privée, et c'est là que j'ai commencé à faire des cours. Et j'avais beaucoup de mal à aller sur scène parce que j'étais très très timide, donc j'étais toujours dans le fond de la classe, et je regardais tous les élèves aller sur scène, et je les enviais. J'ai trouvé très courageux, et j'arrivais donc pas, moi, à aller sur scène. Ouais. Et puis, un jour, le directeur de l'école m'a pris comme ça par le col, et il m'a engueulé, en fait. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, dans le fond de la classe, comme ça, à moitié... à dormir comme ça. Si tu veux en faire ton métier, t'as intérêt à te bouger, ma vieille. Et donc voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé, en gros. Bon, après, c'était beaucoup plus compliqué que ça, parce que je souffrais d'une grande, grande timidité, d'une timidité maladive. Donc,
vous pensiez que la scène, ça allait vous guérir de ça? Parce que ça a l'air hyper paradoxal de dire qu'on est complètement terrifié et qu'on va quand même choisir cet espace-là d'expression.
Oui, c'était très étrange, c'était assez... ambivalent, parce que j'avais à la fois ce désir de vouloir jouer, sans vraiment vouloir jouer, en fait. Je pense que c'était plus une... J'avais plus envie d'exister que de jouer. Et jusqu'au moment où j'ai rencontré un acteur dont je suis tombée amoureuse. Et là, c'était un acteur très arrogant que je... que je suis là.
Ah non, il est en train d'écrire le scénario dans sa tête.
Oui, non.
C'est
le prochain film.
C'est bon, on a déjà la moitié là.
Très arrogant, et
un acteur très arrogant.
Ça se passe à Roubaix avec Samina Seri.
Non, mais vous suivez. Vous suiviez dans la rue, mais pourquoi?
Je suis dans la rue parce qu'en fait, non, mais j'étais amoureuse de lui. J'étais amoureuse de lui, puis je
vous adore.
Et puis.
Complètement.
Mais vraiment,
caché sous un bonnet.
Ouais, exactement. Et il était donc très arrogant, et je me suis dit, tiens, je vais faire en sorte d'exister pour lui. Ouais. Et là, mon désir d'actrice, tout d'un coup, est devenu mon ambition. C'est révélé.
Juste pour le rendre amoureux de vous en retour.
Exactement. Et je me suis dit, un jour, il me verra sur des affiches et il pourra pas.
Ouais, la revanche, quoi.
Exactement.
C'est ça, la revanche.
C'était une forme de revanche. Mais finalement, je le remercie parce que c'est.
C'est grâce à lui.
Non, c'est grâce à moi, mais ça a été un...
pas mal.
Lui, c'est vraiment lui grâce à pense moi. Que c'est grâce à lui.
Hein. Est-ce qu'il le sait?
Peut-être juste grâce à la revanche.
Ah, là, je pense qu'il le sait.
Ouais.
Que la motivation
lui,
vient.
Lui, sa carrière, ça va ou pas?
Et lui, non.
Oui, ça va.
Ça va.
Bon, vous nous direz plus tard. Dans cette année-là, finalement, c'est une bonne année, ça, 2005. Vous, Arnaud Desplechin, vous écoutiez? Autre ambiance.
Un solo de guitare à un moment dans celle-là.
Ah, un doigt. C'est le générique de début de Roi Zeren. Yes.
Absolument. Vous réalisez cette année-là avec Ismaël, un musicien névrosé incarné par Mathieu Amalric, qui est pris en charge par une psychiatre, Catherine Deneuve. Et il y a Nora, il y a Emmanuel Devos aussi, qui fait sûr. Partie de.
Qui était stupéfiant dans le film. Et j'adore cette chanson. Et c'était Moon River, le thème, là, il est chanté par Audrey Hepburn. Et
Breakfast at Tiffany's.
L'instrumental était le thème. Et c'était un film qui était très brutal avec... le scénario était très brutal avec son personnage féminin. Et le film était entièrement dédié en même temps et essayait de protéger le personnage féminin de toutes les tragédies qu'elle traversait. Et il y avait Emmanuel Devos et ce thème qui l'a protégé, moi, j'espère un peu, qui essayons de la mettre en lumière.
On passe à l'année 2015. Léa, vous écoutiez.
Fool me once, fool me twice. Oh, you're dead, the paradise.
Bah, en 2015. C'était pas sorti.
C'est qui?
Bah ouais.
C'est pas grave.
C'est Billie Eilish.
Ah, mais.
No time to die. Billie Eilish. Tiens. BO du dernier James Bond. On va évoquer avec vous le journal d'une femme de chambre, Léa Seydoux, de Benoît Jacquot. C'était votre deuxième collaboration avec ce réalisateur qui vous avait fait tourner dans Les Adieux à la Reine. Vous êtes face à Vincent Lindon dans ce film-là. Quel souvenir vous gardez de ce long métrage et de cette collaboration? Vous parlez des réalisateurs comme des artistes, en effet, qui vous inspirent, qui vous amènent sans doute ailleurs, qui vous guident, qui vous permettent de continuer à apprendre votre métier, j'imagine. Enfin, on doit apprendre sans cesse. Qu'est-ce que vous avez retenu avec Benoît Jacquot?
Benoît, c'est aussi quelqu'un avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner. Je crois que c'était la première fois que j'avais cette relation justement forte avec un metteur en scène. Et puis, comme pour moi, le cinéma, c'est de la pensée, c'est une dialectique. Enfin, c'est et avec lui, il y avait quelque chose aussi, voilà, où c'était il m'a ouvert, il a déployé aussi mon imagination. Et oui, j'ai beaucoup aimé tourner avec lui. C'est quelqu'un de très intelligent et qui a su me regarder.
Ouais, c'est ça. Alors, poser un regard sur vous, c'est je crois que ça a l'air assez indispensable. Dans ces mêmes années, vous, Arnaud, vous écoutiez. Qu'est-ce qui se passe musicalement dans ces années-là, Arnaud? Il y a un petit craquage à Roubaix, là. Il se passe un truc.
Je venais de faire un film à Roubaix qui s'appelait « Trois souvenirs de ma jeunesse ». Et nous avions été le montrer à Cannes. On était pas à la semaine de la critique, à la quinzaine des réalisateurs. Et c'était un film qu'avec des très jeunes gens. Je pensais en particulier à Leroy Le Collinet et Quentin Dolmer, qui étaient les deux héros. Et donc tous les acteurs principaux et les jeunes acteurs étaient venus. Et moi, j'écoutais Kendrick Lamar sur la plage à 2h du matin. Et donc, il y avait. C'est un tube imparable. Ce tube est imparable. Non, c'est pas. Je pense par ailleurs que c'est peut-être le plus grand. Enfin, en tout cas, le rappeur le plus créatif aujourd'hui, vivant, enfin encore en exercice. Et cette chanson-là, elle est. Voilà. Donc, j'ai le souvenir de tous ces jeunes gens. Et dansant avec moi sur King Kunta sur la plage.
Et puis la Comédie Française aussi, Arnaud, à cette période-là.
J'écoutais moins King Kunta à la Comédie Française. J'écoutais un peu, mais moins.
Un tout petit peu moins sur Strindberg.
Juste l'instru.
Strindberg, ça incite pas à la gaudriole, quoi. Mais c'est pas.
Gaudriole.
Un petit peu moins, mais en tout cas, vous vous retrouvez, comme c'est maintenant le cas de plus en plus souvent, la Comédie Française ouvre ses portes à des réalisateurs, des metteurs en scène qui viennent de l'extérieur et qui met finalement à disposition la troupe. Est-ce que c'est là que vous avez repéré Rebecca Marder qui est dans
c'était comme spectateur. Ouais, et j'ai eu la chance d'être invité deux fois à la Comédie Française avec Michel Viermoz et Anne Kessler sur le Strindberg et après de faire Angels in America quelques années après. Et ces deux expériences qui sont renversantes que j'ai connues.
Qu'est-ce que ça change d'un plateau de cinéma traditionnel?
L'éphémère, vous voyez, au début sur Père, comme ça me rendait fou parce que je voyais les acteurs parfaits en salle de répétition et le lendemain tout d'un coup ça s'échappe et je me disais mais pourquoi ils sont fous, pourquoi c'est, vous voyez, au cinéma ça arrive pas parce qu'on filme, on enregistre,
oui,
c'est là. Et vous voyez, ce travail tout le temps, c'est comme des vagues. Vous voyez, vous allez à la plage, vous regardez la mer, c'est infini. Ben là, vous regardez le jeu qui remonte, qui s'efface, qui remonte, qui s'efface. C'est une fascination. Et le rapport avec les acteurs est d'une telle intensité. Et la troupe du français est merveilleuse. Et je pense à tous les jeunes garçons. Je pense à Dominique Blanc sur Angels in America. Enfin, c'est des moments très, très précieux, très, très précieux.
Arnaud, Léa, avant d'accueillir notre spécialiste, on écoute le dernier titre de Damon Albarn, Royal Morning Blue.
Nothing like this had ever happened.
Continue de parler ensemble de Tromperie en salle le 29 décembre, réalisé par Arnaud Desplechin, avec Léa Seydoux à l'affiche et Denis Podalydès de la Comédie Française. Mais on va accueillir à ce micro notre spécialiste du jour, Josiane Savigno.
Spécialiste,
bonjour.
C'est beaucoup dire bonjour.
Oui, si, vous êtes notre spécialiste. Josiane, on est ravis de vous accueillir dans la bande originale. Vous êtes...
la bande
arrangée.
La bande arrangée.
C'est un mélange entre
le
bande arrangée. Tu sens que ce soir, je suis dans mon réveillon. Je suis clairement, Josiane, en train de
clairement bourré, oui, vous pouvez dire.
Du printemps simple, s'il vous plaît. Vous êtes biographe, vous avez écrit avec Philippe Roth aux éditions Gallimard en 2014. Vous l'avez rencontré de nombreuses fois, vous entretenez une belle histoire d'amitié avec lui. Comment est-ce qu'on pourrait le décrire?
Je crois qu'il est très bien décrit dans le film d'Arnaud Desplechin. Et tout ce souk autour de sa misogynie, ça date pas de MeToo. Hein. C'était il y a très très longtemps. Viviane Gornick a dit qu'il était un affreux misogyne. Ça l'a poursuivi toute sa vie. Il voulait plus aller dans les universités parce qu'il se faisait accuser d'être misogyne. Bon, il était un peu macho, c'est clair. Quoi. On en a beaucoup plaisanté. Il m'a fait parfois des réflexions sur les femmes qui me faisaient rire. Et comme par exemple, un jour, il m'a dit « Tu sais, pour une fois, j'ai une histoire avec une vieille. » Je lui dis « Ah bon ?» À quel âge? Je dis 45. Alors, j'ai regardé, je lui ai dit, j'ai 60. T'es un peu embêté.
Ouais.
Mais il m'avait demandé ce que je pensais d'Arnaud Desplechin. Donc, c'est une longue histoire. C'est un projet de longue date. Il m'avait demandé ce que je pensais d'Arnaud Desplechin et d'Emmanuel DeVos à l'époque. Je pense que Léa Seydoux était peut-être pas dans le jeu, mais d'Emmanuel DeVos, j'avais dit tout le bien que j'en pensais. Donc, on était tranquille. Mais hier soir, j'ai vu le film. Et c'est pas bien de faire parler les morts, mais quand même, j'ai tout à fait imaginé Roth très content parce que c'est quand même la seule adaptation intelligente de Philippe Roth. Je les ai vues toutes, elles sont toutes mauvaises. Celle-là est la seule intelligente.
Elles sont toutes mauvaises.
Ben, toutes,
sans exception. Parce que c'est difficile de cerner son œuvre et d'arriver à la...
En particulier la couleur du mensonge, qui est d'une bêtise folle, comme il m'avait dit, tu comprends. C'était très important dans le roman que Zuckerman et Coleman Sick aient le même âge, mais à Hollywood, tu peux pas mettre deux vieux. Donc on a mis un jeune et un vieux, donc ça marchait plus. On avait supprimé aussi l'universitaire française, qui est celle qui est le moteur de la l'accusation. Et donc j'imagine très bien qu'il aurait beaucoup aimé, mais il m'aurait dit je sais que t'adores ce film, mais tu trouves pas que c'est un peu trop intelligent? Parce qu'il trouvait toujours. Mais alors, il vous aurait posé une question, Arnaud Desplechin, c'est pourquoi vous m'avez mis barbu?
C'est vrai.
Parce que c'est comme ça que d'abord, Philippe Roth était barbu à Londres.
Oui, mais non, il a été barbu.
Que par provocation.
Pas du tout, il a été barbu une seule fois. Il me dit, oh, ça me poursuit parce que quand je suis arrivé en France, les Français m'ont photographié barbu. Tout le monde pense que j'ai été barbu. Il a été barbu pour le deuil de sa mère, puis le deuil de son père, mais c'est tout.
Ah, c'est tout.
Mais oui.
Parce que je voyais dans la grosse biographie américaine qui était sortie, il y avait des photos de lui barbu à Londres.
Oui.
Et c'était à l'occasion.
C'était à l'époque de
c'était
mort
à l'époque
de, sa mère,
de son deuil. Ouais.
Philippe
Roth. C'est parce que Denis se coiffe comme ça, il est garni comme moi. Donc du coup, il s'est poussé la barbe.
Mais il est bien.
Il est très bien.
Ouais.
Et puis il a été un peu renfloué aussi au niveau des sourcils, je pense.
Oui. Hein,
ça m'a mis un petit peu de temps pour déterminer qu'il y avait un truc qui avait changé. Je me dis, il a fait un truc, le Denis.
Je voulais qu'il broussaille.
Il a broussaillé un peu.
Peut-être qu'il est un peu trop doux. Il est un peu trop doux. Par rapport à...
Ça dépend des scènes, ça dépend des scènes. Je sais que c'était quand on s'est rencontrés, il y avait, enfin, on se connaît bien, et quand on s'est parlé, Denis et moi, c'était autour d'un mot, j'avais dit, Philippe, qui n'est pas Philippe Roth, qui est Philippe Roth et qui ne l'est pas, et qui est autre chose.
Comme toujours.
Je dis, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il n'est pas gentil.
C'est ça.
Alors du coup, Denis s'était dit, mince, il faut que je sois méchant, alors que c'est un homme qui est bon comme le pain, vous voyez.
Il était pas méchant.
Et en fait, moi ce que je voulais dire, c'était gentil. Vous voyez, c'est que c'est pas un gentil.
Non, pas du
tout. Voyez,
c'est
pas du tout son truc, quoi. La charité chrétienne, c'est pas son truc, quoi. La justice distributive, c'est pas son truc non plus, quoi. Et du coup, c'était autour de ce paradoxe-là. Alors du coup, je nourrissais d'histoires de gens qui m'ont beaucoup appris, et qui n'étaient pas des gens gentils, qui étaient un peu plus juifs que gentils, vous voyez. Et du coup, ça le nourrissait. Je racontais des histoires drôles, et puis ça marchait, et tout d'un coup, ça arrivait à enflammer. Je pense en particulier vers la fin à la scène sur les mariages mixtes, où tout d'un coup, Denis explose dans une verve délirante, raconte 35 fois l'histoire, et tout d'un coup, il atteint, je pense, à la verve de Philippe Roth.
Josiane, un livre éventuellement pour découvrir Philippe Roth, pour ceux qui n'ont jamais lu Philippe Roth, parce que on voit dans le film qu'il y a des thématiques comme ça qui reviennent sans cesse, le rapport à la littérature, parler des juifs aussi, c'est très important, parler des infidélités dans son œuvre en tout cas. Oui.
Dans son œuvre bien sûr, mais c'est, comme il disait, je suis pas un écrivain juif américain, je suis un écrivain américain tout court qui s'est intéressé à la question juive, ouais. Mais beaucoup. Si on aime vraiment beaucoup, beaucoup la littérature, on peut commencer par n'importe quel livre. Si on veut peut-être entrer dans Philippe Roth en voyant son côté extrêmement touchant que certains ne voient pas, il faut dire Patrimoine, qui est l'histoire de la fin de vie de son père, et qui est absolument un livre magnifique.
Eh bien alors, on va retenir Patrimoine en conseil de lecture de Josiane Savigno, journaliste au Monde. Merci d'être
plus
venue.
Maintenant.
Plus maintenant. Ah oui, c'est vrai que vous êtes partie du Monde. Bon, et ben merci, je ne suis pas la seule à découvrir.
Je vous crois, mais c'est,
oui. Pour moi, c'est associé, c'est Josiane Savigno et Monde, pour moi, ça fait partie du... C'est presque votre deuxième nom pour moi. Donc,
C'était naguère.
C'est naguère. En tout cas, merci Josiane d'être venue à ce micro pour parler de Philippe Roth et de Tromperie avec
et
cet échange avec...
Merci pour ce film. Enfin, un film intelligent sur Philippe Roth, ça fait du bien. Il est mort, j'en suis très triste, mais ça m'a fait un bien fou de voir ce film cette nuit.
Ça aurait été un bon compliment si vous étiez encore au Monde, mais maintenant... qu'est-ce que ça vaut maintenant
ça, Et tout de suite, justement, dans la bande originale, c'est Daniel Morin avec le héros du jour.
Absolument. Alors bien sûr, mon héros du jour aurait pu être, c'est clair et net, Ricky Martin. Ricky Martin qui aujourd'hui fête ses 50 ans. Ah. Ricky Martin, merde ! Oh, rien que pour ça, Ricky, tu mérites les honneurs. Le gars est tellement beau que quand il chante 1, 2, 3, la terre entière achète son CD. Le pouvoir du gars. Oui, mais attention, quand je parle de beauté, là, on parle vraie beauté. On parle pas de beauté style... regard énigmatique, sourire mystérieux, corps gracile, évanescent, tout en finesse qui t'enivre, te donne envie de voyager au pays du romantisme impossible et des passions contrariées. Non, la beauté de Ricky Martin, c'est animal. C'est le regard qui met le feu à ta chemise, qui te fait transpirer des dents, qui te fait parler polonais à l'envers tellement tu as envie qu'il te saute dessus pour te malmener toute la nuit. Ricky, t'as envie qu'il fasse de toi sa chose, son jouet, son nonos, et que le lendemain matin, le corps meurtri mais le cœur en fête, tu ne saches plus si tu te réveilles à Paris, à Buenos Aires ou à Roubaix. C'est ça, Ricky, c'est la beauté du diable. Et ça, la beauté du diable, c'est de la graine de héros. Et pourtant, ce n'est pas Ricky Martin, mon héros du jour. Non, aujourd'hui, 24 décembre, c'est bien sûr le bonhomme habillé en rouge, le Père Noël. Alors, c'est une faute de goût que de s'habiller comme Anne Romanoff. Mais c'est le Père Noël, il roule toute la nuit du 24 au 25 avec le nombre de gars bourrés qui vont prendre le volant. C'est pas con de porter des habits un peu voyants. Mais à part ça, à part le look, quel homme ce Père Noël, quel homme. Il bosse une nuit par an, mais quelle nuit! Heureusement qu'il y a des pays pauvres où la tournée est plus rapide. Parce que sinon... Parce que les gosses... Si jamais tu passes pas, les gosses, ils te font un scandale. Tu peux pas leur dire, pour cette année, c'était chaud pour tout livrer le 24 au soir, je repasserai vers le 15. Tu peux pas non plus leur faire le coup de la poste. On est passé, mais il y avait personne. Votre colis est disponible à la poste, venez le récupérer avec votre carte d'identité. Non, la nuit du 24, il y a du monde à la maison, toujours. Ce mec, le Père Noël, est un héros. Le gars, il a 1751 ans. Alors j'ai vu ça quelque part, je sais pas si c'est vrai, mais il continue de bosser. Mélenchon qui est pour la retraite à 60, il doit pas pouvoir le blairer. Du coup, j'en appelle solennellement à Elisabeth Borne.
Allez.
Madame la ministre du Travail, Elisabeth Zaza. Les Français sont des feignasses, ils ne veulent pas bosser, tout le monde le sait. Ce qu'il leur faut, c'est un exemple. Et quel meilleur exemple que le Père Noël pour ce qui est de l'engagement? Je propose qu'on nomme le Père Noël ministre délégué aux heures supplémentaires. Il donne l'exemple chaque année, sans moufter. Le peuple lui fera confiance. Vive la République, vive le vent d'hiver.
Bravo Daniel. C'est pareil, la même chute. On est dans un concours de
chute. Vive le vent d'hiver,
je trouve ça pas mal. Vive le vent d'hiver. On continue de parler de Tromperie avec nos invités Léa Seydoux et Arnaud Desplechin. Et tout à l'heure, après les infos, on te retrouve, Jérémy Créville.
Avec plaisir.
Et de quoi on parle?
De Noël, tiens.
Sérieux, à tout de suite. Le retour de la bande originale avec Morgane Cadignan, avec Alexis Le Rossignol, Jérémy Crédville, Daniel Morin.
Salut.
Et nos invités Léa Seydoux et Arnaud Desplechin. Tromperie est en salle le 29 décembre avec Léa Seydoux, Denis Podalydès, pardon. Anouk Grimbert, quel bonheur de revoir cette comédienne.
Qu'est-ce qu'elle est bien. Elle est merveilleuse. Ouais. Bien sûr, oui, j'ai des souvenirs, j'ai tellement de souvenirs de cinéma mais de théâtre aussi avec elle que je pouvais jouer avec elle enfin. J'ai un souvenir très précis d'elle dans le Temps et la Chambre, je crois, dirigé par Chéreau à l'Odéon, et où comme ça il y avait des scènes et une telle puissance d'émotion chez elle, de vulnérabilité qui me renverse.
Elle est époustouflante dans le rôle de l'épouse
chagrine
qui donne lieu à une superbe scène d'explication de texte et d'envie tout d'un coup de comprendre d'où lui sort cette inspiration dans ses carnets. Est-ce que c'est le réel qui l'inspire, est-ce que c'est en demandant sans trop oser demander aussi, il y a quelque chose de très doux avec ce personnage féminin. Pour replacer l'histoire, Philippe est un écrivain américain qui est célèbre, qui est exilé à Londres, exilé volontairement, et il va faire la rencontre de toute une sorte de solitude, finalement. Votre personnage, Léa Seydoux, qui s'interroge, elle aussi, sur sa vie, sur ses aspirations, sur ses amours, sur... C'est une Anglaise qui n'est pas, là, elle aussi, au bon endroit, peut-être. On ne sait pas comment l'expliquer, mais est toujours dans cette atmosphère un peu humide de l'Angleterre, avec cette pluie sans cesse. Et il y a un découpage en saison, d'ailleurs, dans ce film. Il y a un chapitrage qui vient se superposer. On se serait attendu à une forme de printemps avec l'éveil des sens au début de la relation amoureuse. Et pourtant, c'est pas le cas, c'est inversé.
Oui, c'était inversé. C'était un truc comme ça qu'on avait fait avec le directeur de la photographie. Ça nous plaisait de commencer le film en automne. Et là, le couple est incertain. Ça va moyen entre Léa et Denis. Et puis voilà l'hiver. Et c'est absolument formidable. Et là, c'est parfait. C'est les moments parfaits. Et puis arrive le printemps. C'est la rupture, et tout d'un coup ils sont horriblement tristes et c'est l'été. Et vous voyez que les saisons aillent à contresens du bonheur ou des chagrins que doivent éprouver ce couple, ça m'enchantait. Et puis ça faisait très élégiaque comme ça, sensuel, et je trouvais ça cool.
Et je trouve ce couple merveilleux quand ils commencent à dresser ensemble, Léa, la liste des questions à se poser pour envisager de fuir ensemble. Et je trouve que c'est d'une drôlerie folle. Et quand on vous voit avec Denis Podalydès dans cette scène-là, on imagine simplement que vous êtes en train de rire naturellement, finalement, même pas en train de jouer des personnages qui rient, mais vous listez les raisons qui pourraient faire que cette fuite ensemble ne serait pas possible. Vous avez, j'imagine, pris un plaisir fou à jouer avec Denis Podalydès, qu'on a jamais vu comme ça, lui aussi, au cinéma.
Oui, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer avec Denis. Surtout, on a un parcours très différent. Donc, évidemment, j'étais un peu impressionnée.
Ça devait être réciproque, je pense.
Je sais pas, mais c'était très... C'était vraiment très agréable de jouer avec Denis. C'est un acteur, d'abord, très intelligent, très généreux. C'est jouer... une partie de tennis, quoi. On se répondait bien, et puis c'était vraiment très 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 agréable.
Il y avait une véritable tendresse entre il y avait un couple naturel. On ne s'interroge pas en voyant le film sur la fabrication, loin de là. En fait, il y a quelque chose d'assez évident que j'ai trouvé très doux et troublant.
Mais Denis avait un grand trac de jouer avec Léa, parce qu'il avait la plus grande admiration pour toi, et il y avait quelque chose que je crois qu'on voyait tous les deux, lui et moi, qui est singulier chez là. Il y a une c'est difficile de parler du jeu d'actrice ou du jeu d'acteur, mais il y a une passion pour la justesse, de tout sacrifier pour la justesse, pour atteindre la note juste, qui est chez Léa. Et ça, Denis regardait ça, il était en admiration totale. Et d'autre part, ce qui se passait pendant le tournage, c'est qu'on ne savait pas ce qui allait se passer avec toi. On savait pas ce qui allait se passer. Si t'allais rire, pleurer...
C'est-à-dire, ça, ouais, ce qui se passe avec moi.
On ne veut pas savoir.
Comment ça? Donc, vous la dirigez pourtant?
Non,
celle qui reprend le pouvoir.
Diriger, c'est un vilain mot. On ne dirige pas les acteurs, on parle un peu avec eux. On essaie de les aider, voilà, c'est tout. Non, mais on ne savait pas. On ne savait pas quand est-ce que cette femme, elle s'effondre, est-ce qu'elle renaît, quand est-ce qu'elle rit. On ne savait pas. Je ne sais pas si toi, tu le savais non plus en commençant les plans. Mais tout d'un coup, on découvrait les scènes par la lecture qu'en faisait Léa. Et nous étions à l'écoute de ça, de cette capacité d'invention de Léa qui est assez stupéfiant.
Ça doit être vertigineux, Léa, tout d'un coup, de se dire que finalement, ils sont aux aguets, ils sont en train de guetter vos réactions, parce qu'ils savent pas du tout où vous les emmenez où vous voulez, en fait.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est ça qu'on veut.
C'est impossible. Dans la bande son de Tromperie, il y a aussi les scènes de piano jazz.
C'est très London, bien sûr.
Et on a sans cesse l'impression que ce couple se quitte et se retrouve.
Ouais.
Qu'il y a des retrouvailles sans cesse, parce qu'ils jouent les retrouvailles sans trop savoir combien de temps il s'est écoulé entre la dernière fois où ils se sont vus. Et à chaque fois, moi, je suis prise au piège. Je me dis, ah, il se retrouve peut-être. Ah non, il joue à se retrouver. Il y a quelque chose de très complice, quoi, qui rend la relation très belle à observer.
Mais c'est ce qui est singulier quand vous avez des aventures, quand vous vivez une aventure, que c'est extra-conjugal, que c'est pas pris dans une règle ou dans une loi, c'est que c'est très, très fragile. Mais c'est très, très, rien n'est gagné, jamais. Vous rejouez tout le temps la partie, à chaque seconde, vous rejouez la partie. Vous voyez, on m'a pas parfois posé la question, pourquoi ce livre-là? Parce que je vous disais, c'est qu'un carnet de notes avec des fragments de dialogue. Et du coup, je trouve ça appelait à ce que ce soit incarné, à pas laisser les mots comme ça, à les incarner. Vous voyez, il y a une scène comme ça dans le livre qui est très, très courte. Je vais vous la citer en français en entier. Il n'y a pas écrit il, elle, on ne sait pas qui dit ça, c'est oh, une nouvelle ceinture. Voilà, c'est tout.
Oui.
Et donc tout d'un coup, vous dites, ah, ça doit être le personnage féminin dans une certaine circonstance,
voilà,
qui dit ça. Et tout d'un coup, ça vous donne envie de le filmer. Vous voyez, et c'est un enchantement parce que, vous voyez, votre femme ou votre époux, votre compagnon, votre compagne, il dirait pas ça parce qu'on a l'habitude, on est pris dans un truc d'habitude. Mais là, tout devient surprise et tout devient miracle, quoi. Et c'est ça qui m'enchantait dans le livre et dans la découverte du livre par les acteurs.
Tromperie est en salle à partir du 29 décembre avec Léa Seydoux et Denis Podalydès. Et tout de suite dans la bande originale.
Non, pas
de Tromperie. Ouais. Non, pourquoi Tromperie? C'est Jérémy Crédville.
Ambiance, évidemment.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Ambiance. Ah, la magie de Noël et son fameux réveillon en famille. Cette année plus que jamais, éviter les rassemblements de plus de 5 personnes et donc éviter la famille et Noël. Et puis de toute façon, Noël, à 5, à quoi ça ressemble? À une chaussure de Nagui, c'est cher pour ce que c'est et parfois ça pique. Pour vous le prouver, passons le réveillon de Noël avec une famille de Français moyens, soit 1m70 environ. Déjà? Oh, ça peut pas être eux. C'est nous! On a ouvert un peu après. Ah bah si, c'est eux. Désolé, on est un peu en avance. 40 minutes, c'est plus qu'un peu. Attends, mais pourquoi t'as un accent québécois, Jean-Marc? Tu viens de Melun. Mais c'est pour qu'on me reconnaisse dans le dialogue. Oh, pas con! Mais va le dire à l'auteur. Pas con, Jérémy. Merci. On peut entrer? Je peux voir vos passes sanitaires? Bien sûr. J'ai fait ma 4e dose hier. 3e, tu veux dire? Non, 4e, c'est pour le variant ouzbek. Je prends de l'avance. Eh ben, entrez. Ah bah, il s'essuie pas les pieds, d'accord. Oh, c'est sympa la déco. Ah, vous mettez les peintures du petit dans un cadre, vous?
Non, ça c'est de moi. Non, mais je rigole pas.
Non, d'accord. Eh ben, bienvenue, donnez, je vais vous débarrasser.
J'ai ramené une bouteille de rouge, un Côte du Rhône à 18,60 €. Eh ben, pose-le sur la table à 238 €.
Qu'est-ce que c'est? Un chien. J'essaie de faire une pièce de théâtre, mais seul.
C'est très bien.
Je suis allergique.
M'en fous.
C'est... Comment?
C'est fou. Quelle bonne idée, ce Noël sans les enfants.
Oui.
Ben, c'est quand même moins animé.
Oui, pas faux. Ah, voilà mamie. Bonjour maman.
Allez, kéké.
Oui, bah pose ça là. Mais tu lui demandes pas son passe? Non. Les violons sur papier, le temps qu'elle le sorte, on sera à Nouvel An.
Allez, kéké.
Bah, évidemment. Et qu'est-ce qu'on mange? Dinde au marron. De la dinde? Mais je suis allergique.
Eh ben tu mangeras les marrons.
Gne, gne, gne. Reste poli maman.
Si on ouvrait ma bouteille... Je suis à la combienième fois?
4, putain.
Si on ouvrait ma bouteille à 18,60 €. Et toi, si tu fermais ta gueule?
Tiens, on peut aussi ouvrir les cadeaux. On attend minuit.
Oh, on a deux. J'allais, c'est Noël. Sinon, on n'a qu'à le faire après le bêtisier.
Ikeke.
Oh, et puis merde. C'est Noël. Avec l'année qu'on a passée, on peut s'ouvrir un paquet quand même.
T'es pharmacien, Jean-Marc. Je pense que cette année, c'était pas si mal quand même.
Ouais. Allez, tiens, Nadège, ouvre.
Les Ferrero Rocher.
Winter édition, 9,30€. Ah bah ça fait une demi-bouteille. Allez, à nous. Tiens Isa.
Une cloche à fromage? Mais je suis allergique.
T'es allergique quoi, à la cloche?
Non, au fromage, Patrick.
Eh ben heureusement que t'es pas allergique à la connerie, parce que sinon tu feras un œdème de coinque. Baylor, c'est ton maximum de répartie, Jean-Marc? Baylor, ben oui, je suis québécois, j'aime pas le conflit. Mais t'es pas québécois, Jean-Marc, tu viens de Melun.
Ikeke.
Non mais arrêtez de vous engueuler, on a même pas encore parlé de Zemmour.
Ikeke.
Moi je suis Ikeke.
Oh Patrick, arrête! Tu as beaucoup trop bu!
J'ai pas trop bu, madame. Je suis français. Brouhaha, 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 brouhaha. Et c'est ainsi que se passe la plupart des réveillons en famille à Noël. C'est pourquoi en français, joyeux Noël peut se dire bon courage.
Yes!
Ah, cette voix! Il est complètement dingue. On croirait une scène de lecture de pièces où il est.
Et Guérémy qui sera le 22 janvier à l'espace Julien.
Mais tout seul.
Et c'est à Marseille.
À Marseille.
Pardon, on parle de Tromperie, le nouveau film d'Arnaud Desplechin qui sera en salle le 29 décembre.
J'aurais dû chanter.
Que se passe-t-il d'autre dans le monde de la culture? Quelques questions. Quel genre de livre trouve-t-on en bonne place dans les meilleures ventes actuelles?
Les mangas.
C'est-à-dire
les livres de politique?
En librairie, en très très bonne
les
place, dans les meilleures ventes
les
actuelles,
mangas, les BD,
les livres de
ce
cuisine.
Ne sont pas des nouveautés.
Les rééditions de...
Non.
Les trucs de films.
De classiques.
Les trucs de films, c'est-à-dire
les
scénarios.
Non, les livres qui sont...
Absolument. Les grands classiques qui ont été adaptés au cinéma, à la télévision.
Ah, Jérémy,
c'est ce que j'ai dit.
Exemple, Illusion perdue, qui a été adapté par Xavier Giannoli. Eh bien, tout d'un coup, c'est un titre que les libraires à l'ordinaire vendent à 3000 exemplaires en une année. Et là, ils sont déjà à 7500 exemplaires en un mois depuis la sortie du film. Donc comment, finalement, le cinéma va rebooster les ventes de bouquins? Ça a été le cas avec Arsène Lupin, après le carton de la série sur Netflix. Eugénie Grandet aussi se porte très bien en librairie, ou Germinal. Quel est le dernier classique que vous avez lu, Arnaud Desplechin?
Dernier classique?
Ouais.
Est-ce que vous... Là, je suis en tournage, si vous voulez, donc mon taux de lecture...
Ouais.
Non, je lis. Je suis en train de lire un livre de Coetzee qui est formidable. La mort de Jésus, vous voyez, c'est encore un titre qui prête à la rigolade en période de Noël. J'adore. Et un écrivain sud-africain formidable, mais des classiques, je ne me souviens pas.
Ouais, pas de classique dernier en date. Un livre que vous aimeriez adapter, est-ce que on a parlé de Tromperie, est-ce que...
Ça se passe pas comme ça.
Ouais.
Ça se passe
vous avez
par
pas
les
d'envie.
Acteurs ouais. ou par...
Ah, c'est pas un texte qui va vous guider vers l'envie de trouver les acteurs?
Non, faut trouver l'alchimie qui fait que tout d'un coup, ça devient un projet en entier, ouais. quoi. Et ça passe par le, je vous disais par l'incarnation, mais ça passe par le, oui, par la question des acteurs, quoi. C'est pas, non, j'arrive pas, il y a pas de titre qui me passe par le.
Et vous, Léa, qu'est-ce que vous aimez lire?
Alors moi, j'achète énormément de livres. Mais je fais des cadres.
Non,
j'achète beaucoup de livres et j'ai du mal à aller jusqu'au bout. C'est un peu un problème.
Bah non, c'est peut-être que le livre vous a pas suffisamment convaincu.
Non, si, parce que j'adore j'adore, mais je lis
temps,
comme ça, je commence des livres, je les termine pas.
Si vous les preniez à la moitié, vous les termineriez peut-être.
Mais non, j'achète beaucoup de classiques. Ouais. Là, en ce moment, je suis sur Crime et Châtiment.
Ah, d'accord. Pardon. Ah ouais.
J'allais dire tous les Martines, mais
Crime et Châtiment. Ouais, Crime et Châtiment. Donc là, on est parti pour a priori une grande balade.
Voilà.
Là, ça prend un petit peu de temps, sauf si on l'abandonne en cours de route et on trouve son bonheur ailleurs, quoi, tout simplement.
Ah non, la fin est vachement bien.
Faut pas spoiler. Hein. Si je vous dis à présent la nuit où Laurent Gaudreau s'est réveillé, je parle
c'est
de
un
quoi
mardi.
Je parle de quoi? La nuit où Laurier...
Il s'est réveillé d'un coma?
Où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Ça
une
vous dit
pièce.
Rien? C'est une pièce de théâtre qui est adaptée, mais adaptée par qui? Vous connaissez Léa Seydoux, ce metteur en scène. Vous avez joué avec lui et pour lui.
Et je dois deviner
lui. Tout le monde doit deviner.
Christophe Honoré?
Non, c'en est un autre. La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, adaptation d'une pièce de théâtre... écrite par Michel-Marc Bouchard.
Un indice,
qu'est-ce que je peux dire? Il a le même accent que Jérémy tout à l'heure.
Ah, Xavier Dolan.
Absolument, c'est Xavier Dolan. C'est la première série de Xavier Dolan. Il vient d'annoncer la fin du tournage. Ça devrait sortir sur Canal en 2022. 5 épisodes de 60 minutes. Une pièce qui raconte le retour au sein de sa famille d'une thanatologue venue embaumer sa mère après... C'est une comédie aussi. Hein, Arnaud, on est clairement dans la même...
Je suis mort de rire.
sourire déjà.
Voilà, voilà. Et on va revenir dans le passé de ces personnages. Xavier Dolan se lance dans la série. Est-ce que c'est un exercice, tous les deux, qui vous tente, chacun dans votre position, Léa?
De jouer ouais, dans une série,
d'incarner un personnage d'une série.
Pourquoi pas? Je regarde pas de série.
Ah bon?
Non, jamais.
Pourquoi?
Parce que je sais pas. Écoutez, c'est très étrange. Je regarde pas de série. Je regarde pas la télévision. J'écoute la radio, France Inter. C'est tout. C'est vrai en plus.
Et des films.
Mais non, oui, je regarde des films, bien sûr. Ouais. Je regarde des films et je lis des livres de temps en temps. Enfin, mais c'est vrai que non, je sais pas. C'est un. Pour moi, c'est un peu chronophage, ouais, la série, et je n'ai pas le plaisir de la, comment dire,
d'en profiter bien sans avoir le
stress. C'est pas ça, je crois.
Oui, mais en fait, j'ai pas ce désir d'être divertie. Je ne cherche pas à tout prix à être divertie. Et donc, pour moi, la série, c'est comme un peu satisfaire un désir immédiat comme ça de consommation ouais, d'une histoire. Et en général, c'est vrai que les histoires ne m'intéressent pas. C'est-à-dire, c'est, même au cinéma, c'est pas l'histoire qui va m'intéresser, c'est plutôt la mise en scène ou le geste d'un metteur en scène.
Et vous, Arnaud, ça pourrait vous tenter de vous lancer dans une série? Parce qu'on peut, imaginer comme ça que c'est aussi la possibilité de développer différemment des personnages, de les retrouver, de les quitter, de les...
Moi, je trouve ça super juste ce que dit Léa, c'est que c'est... On vous raconte des histoires. Mais vous voyez, comme on dit en français, tu me racontes des histoires, c'est pas vrai.
Ouais.
Vous voyez, alors que quand moi je vais voir un film, j'y vais pour la mise en scène. Mais j'y vais pour les acteurs, pour ce qu'ils veulent me dire. Et papa qui me raconte des histoires, ça me saoule, quoi, au bout d'un moment. Et en même temps, regardez, ouais, je viens de participer à une série, j'en suis très très fier, c'est En Thérapie, avec Nakash et Toledano.
Ouais. Et, la saison 2.
Et je jouais avec Suzanne Lindon. Et c'était formidable à faire. J'ai appris beaucoup de choses sur cette série.
Vous avez joué dans la série?
Non, pas du tout. Ah, je réalisais.
On pourrait imaginer aussi que vous pourriez tenir un rôle.
Oh non, mon Dieu, non.
Pourquoi?
Non, je me connais, vous voyez, puisque j'arrête pas de faire l'andouille dans les essais et tout ça, donc de jouer tout le temps. Et alors, c'est frappant, vous voyez, quand j'ai l'impression à chaque fois que je sors des essais que je suis très très bon, que je suis un acteur merveilleux.
Alors
et sauf que je regarde les bandes après pour voir les acteurs, le résultat, et je n'ai zéro présence. C'est-à-dire que je suis transparent, un fantôme. Vous voyez,
à quoi ça tient,
pas.
Ça justement, quand on voit la présence magnétique de Léa sur l'écran,
c'est... Je ne sais pas à quoi ça tient. Pour moi, c'est un mystère heureux. C'est un mystère heureux. Je n'ai pas de présence, je ne le regrette pas, parce que je crois que j'ai un petit talent pour un tout petit peu aider les actrices et les acteurs à jouer. Voilà, c'est ça que je sais faire, c'est tout.
On n'apprend pas, ça, Léa, à avoir de la présence.
Si, ça s'apprend.
Ça s'apprend.
Non, pas du tout, ça s'apprend.
Non,
ça s'apprend pas. C'est vrai que c'est mystérieux. C'est mystérieux. Quand j'ai commencé à jouer, par exemple, je savais pas que on sait jamais ce qu'on dégage. Ce qu'on dégage,
ouais,
exactement. Et j'avais remarqué, oui, que j'avais une certaine ciné-génie. Voilà.
Ouais.
Mais sinon.
Ouais, ouais, on ne peut pas savoir. Il y a quelque chose d'assez magique là-dedans.
Oui, je ne sais pas. C'est ça. C'est à quoi c'est dû. C'est une forme de. Il y a une vérité qui, tout d'un coup, je ne sais pas, qui s'inscrit sur l'écran.
C'est tellement beau de voir qu'un être humain apparaître au cinéma. C'est beau. Hein.
Et c'est beau de voir Léa Seydoux dans Tromperie parce que vous la. Voilà, vous approchez d'elle, vous vous approchez de son visage, de son corps, et c'est une femme comme ça qui est certes une des héroïnes de ce film, mais qui se laisse aller aussi à sa fragilité, à ses pleurs, dans des moments de confidence, de doute aussi. C'est vraiment un très beau film, Tromperie, qui est en salle le 29 décembre, réalisé par Arnaud Desplechin. Je rappelle quand même la distribution, parce que Anouk Grimbert, Emmanuel Devos, Rebecca Marder, Madalina Constantin, Saadia aussi, Ben Taeb, parce qu'il y a une scène du procès qui est assez exceptionnelle, pour faire référence à ce qu'a dit tout à l'heure notre experte Josiane Savigno sur l'éventuelle misogynie de Philippe Roth, et là, du personnage de Philippe dans le film. Il y a quelque chose de très très drôle avec un petit clin d'œil à Kafka, d'ailleurs. Voilà, c'est en salle le 29 décembre. Et il est temps de vous présenter des excuses. Daniel, c'est à toi.
Absolument désolé pour Mélanie Laurent, Camélia Jordana, Charlotte Gainsbourg, bref, toutes les actrices chanteuses qui, ce matin, ont découvert qu'une nouvelle venue avait complètement tué le game. Mademoiselle Léa Seydoux.
C'est dur pour moi.
On en tremble, hein. Désolé pour tous les mots qui ce matin n'ont pas été prononcés par Léa Seydoux.
C'est cette salope. Que finalement les choses qui sont les plus...
T'as pas d'âme.
On peut le sampler, ouais.
Ouais, mais c'est pas grave. Les silences de Léa Seydoux, c'est aussi du Léa Seydoux. Désolé pour tous les apprentis comédiens qui aimeraient se faire suivre par Léa Seydoux, planqué derrière son bonnet. C'est trop tard. Maintenant, elle s'est révélée. S'est révélée un peu trop, peut-être. Désolé, enfin, pour nos invités qui, ce matin, espéraient logiquement tomber sur Nagui. Eh ben non, il a pas pu. Non, il m'a appelé en larmes hier soir pour me dire « Non, mais quelle semaine de merde, de la BD lundi, tu sais bien que j'arrive pas à lire les bulles. Mardi, Chantal Goya et ses amis Lapin et Panda, j'aime pas les bêtes. Mardi, Trio, la drogue et la mauvaise musique, c'est bon, j'ai taratata. Jeudi, Alexandra Lamy et ses tests de grossesse, je sais qu'il y avait un message caché pour moi. Et aujourd'hui, Tromperie, ça me rappelle trop mon quotidien, je peux pas faire non plus cette émission. Putain, semaine de merde, si ça continue, foutu pour foutu, en janvier, je signe sur Europe 1. Allez, bonnes vacances quand même.
Merci Daniel, merci. Merci Léa, merci Arnaud d'être venu nous parler de Tromperie dans la bande originale. Je rappelle, en salle le 29 décembre avec Denis Podalydès, adapté d'un roman, en tout cas c'est plus qu'une adaptation là, de Philippe Roth, en tout cas il faut le citer. Merci à vous les copains, merci. Autour de la table. Bon réveillon ce soir, prenez bien soin de vous, de vos proches, de ceux qui vous sont chers. Lundi, la bande originale est de retour avec les meilleurs moments. Et oui. On va commencer lundi avec Laurent Voulzy.
Voilà. Cherché, hein,
belle journée à tous.
Salut.